Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre invitation pour ce dimanche d'avant Pâques. Donc cet après-midi, nous allons justement penser, réfléchir, se remettre un petit peu dans le contexte, dans les explications, dans la signification, bien sûr, de ce qui va se passer, de ce qui s'est passé et de ce que nous allons commémorer la semaine prochaine, c'est Pâques. Donc là, nous avons, dans cette lecture de Deutéronome, quelques prémices. Hein, observe le mois des épis, célèbre la Pâque, en l'honneur de Dieu, hein, pas en l'honneur des agriculteurs ou d'une autre personne, mais non, en l'honneur de Dieu. Parce que c'est dans cette nuit-là que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Ça, c'est les prémices. Et puis plus loin, dans Ésaïe, nous allons avoir un comparatif un petit peu, enfin, un comparatif similaire, mais surprenant et avec, je dirais, encore une autre et une nouvelle dimension. Nous lisons ceci dans Ésaïe 53, à partir du verset 1er. « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. » Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Plusieurs centaines d'années avant, le prophète a décrit ce qui allait être la venue de Jésus, bien sûr, mais la nouvelle Pâque, un sacrifice. On va voyager un petit peu dans le temps, on va remonter l'histoire pour mieux comprendre peut-être ce qui a précédé la Pâque. Et pourquoi la Pâque a eu lieu? D'abord, que veut dire Pâque? C'est un dérivé d'un verbe hébreu qui signifie passer outre, passer au travers, dans le sens d'épargner. La voiture ne m'a pas percuté, elle a passé outre. Elle a fait un détour. Elle m'a épargné. Souvenez-vous dans Exode. Donc la Pâque s'appelle aussi la fête des pains sans levain, sans ferment, sans ajout. Et ce récit nous permet de constater ô combien Dieu prend soin de son peuple, que Dieu est bon. Il est aussi question dans cette Pâque de purification, de souvenir. Pâque est une fête en souvenir de la protection et de la délivrance de Dieu. Mais c'est une fête qui n'avait pas sa signification complète si elle n'était pas accompagnée de sacrifices vivants. Sacrifice d'agneaux. Enfin, d'animaux, pas que des agneaux, vivants et purs, sans tache, sans défaut. Voyez un petit peu le comparatif, comment elle se fait avec Jésus. Bien sûr, Jésus n'est pas un animal, mais il était pur, sans tache et sans défaut. Et c'est grâce à lui que nous sommes épargnés. Donc la Pâque a été instituée en Égypte, voilà le départ de la Pâque, pour commémorer la délivrance du peuple de Dieu la nuit où les premiers-nés des Égyptiens sont morts, mais où Dieu a épargné son peuple. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient eu, ils avaient reçu ce message, sacrifiez un agneau et répandez son sang autour du liteau de votre porte et toutes les personnes qui seront à l'intérieur seront protégées. Les Égyptiens, eux, n'ont pas pensé, n'ont pas songé, n'ont pas peut-être été avertis. Et l'ange de la mort est venu les frapper les premiers-nés, dont le fils du Pharaon. Le repas qui était accompagné cette fête, donc tout le monde se tenait prêt à partir, l'agneau égorgé était rôti, il était mangé avec des pains sans levain, sans rajout, avec des herbes amères. Pour laisser un souvenir. Dans Lévitique au chapitre 2 et au verset 11, « Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain. » Car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Dieu souhaite que ce que nous lui présentons soit sans ajout, sans additif, soit pur et naturel. Comme notre vie, quand nous nous présentons à Dieu. Toutes ces images, tous ces récits, ont leur réalité dans nos vies. Précisons encore que l'animal devait être sans défaut, car sacrifier un animal avec un défaut pour se dire de toute façon on ne sert à rien, voilà, pour l'abomination. Le levain est considéré comme un agent de corruption, comme le décrit Jésus, d'impureté, de malhonnêteté. Voilà l'historique de la Pâque pour le peuple d'Israël, symbole de la délivrance, symbole de la vie, de la pureté, symbole du sacrifice et symbole aussi de la protection. Et cela aurait pu durer éternellement pour le peuple d'Israël, qui année après année célèbre la Pâque. Mais, souvenez-vous de ce récit d'Ésaïe. Mais il allait se passer quelque chose. Un autre agneau, entre guillemets bien sûr, allait être envoyé, non pas pour être sacrifié pour un groupe de personnes, mais pour l'humanité entière. Sinon, on ne sait pas combien d'animaux purs il aurait fallu sacrifier pour la terre entière. Et aujourd'hui, il n'y a plus besoin de sacrifice d'animaux, puisque le, avec un grand L, le sacrifice suprême et ultime a eu lieu avec Jésus. Vous voyez ce comparatif, Ésaïe compare Jésus à un agneau, et puis quand on lit les textes, il est bien notion de protection, de sacrifice, pour épargner l'humanité. Et Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, pas car Dieu a tant aimé, alors avec une liste de personnes ou de peuples ou le monde. C'est ça qui peut-être parfois déstabilise certaines personnes, mais il est bien question du monde, dans son intégralité. Et là, c'est Dieu lui-même qui allait prendre la place de tous les animaux réunis, en une seule fois. Voilà pourquoi Jésus est venu, parce que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a sacrifié son Fils. Le seul être pur, sans défaut, sans levain, sans péché en fait. Levain, péché, c'est une image, mais c'est ce que cela signifie. Et dans Jean, chapitre 1, verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. » L'agneau de Dieu. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Encore les mêmes liens, les mêmes relations, les mêmes mots avec des significations peut-être différentes, mais on retrouve le même sens. Vous voyez, le Nouveau Testament ne contredit pas l'Ancien Testament et l'Ancien Testament ne contredit pas le Nouveau Testament. Pourtant, des centaines d'années se sont écoulées entre les deux. Ce qui veut dire aussi, c'est que même pour la personne qui serait la plus riche du monde, et je pense qu'il doit y avoir un numéro un hein, sur cette terre, hein, parce que tout est classifié, hein, même pour cette personne-là, il lui serait impossible, impossible de racheter son âme. Impossible. Impossible. Ce n'est ni par des choses périssables, hein, c'est pas par de l'or, c'est pas par de l'argent. Tout ça, c'est de la futilité. Qui mieux que Jésus pouvait se taire devant ce genre de traitement ? Personne. Enfin, surtout pas moi. Qui aurait aimé souffrir de cette manière ? Humilié, insulté, bafoué, traité, giflé, frappé, piqué. Son sacrifice sur la croix va servir de signe pour tous ceux qui ont voulu et qui veulent s'y purifier. Pourtant, vous savez, à l'époque, hein, mourir sur une croix, nous, de nos jours, on ne sait plus tout ce que ça veut dire, mais à l'époque, c'était l'infamie la pire. Il n'y avait rien de plus humiliant, de plus méprisable, de plus tout ce que vous voulez, que d'être cloué sur une croix devant tout le monde. Pas exécuté, pas aujourd'hui, enfin, pour les pays qui pratiquent encore condamnation à mort, l'injection létale, ou la chaise électrique, ou peloton d'exécution. Non, mais là, c'était mourir à la croix. Il n'y avait rien de pire. Et Jésus est passé par là. Puis il y avait tout un rituel, hein. Le condamné avait les mains percées, et Jésus a eu les mains percées. Il avait les pieds percés, Jésus était percé. Et puis parfois même on le bat pour qu'il meure plus vite, avec plus de souffrance, et bien on lui cassait les os des jambes, pour qu'il ne résiste pas, pour qu'il soit encore plus humilié, pour qu'il souffre davantage. Excusez-moi, je me permets d'insister, mais c'est pour montrer que il n'y a rien eu de facile dans tout cela. Alors, quelqu'un pourrait se dire, ah ouais, mais bon, c'est le Fils de Dieu, donc ça se trouve, il ne ressentait pas la douleur. Je ne suis pas convaincu que Jésus ne ressentait pas la douleur. Hein. N'était-il pas fait de chair et de sang, comme nous ? On brisa les jambes des voisins de Jésus, mais on ne brisa pas les jambes de Jésus. Car il était déjà mort. Et comme disait l'Écriture, aucun de ses os ne serait brisé. Et même jusqu'à la fin, il a encore emmené quelqu'un avec lui, un des brigands qui a dit, mais toi, tu méritais rien, nous aussi. Et Jésus lui dit, ben, aujourd'hui encore, il est encore temps, tu vois, c'est le dernier moment, et là encore, toi, tu saisis ta chance. Et rappelons-nous, hein, dans Ésaïe 53, verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Pour montrer que c'était pas juste un claquement de doigts. Ouais, vous savez, bon, Jésus est venu, hop, il s'en va, que ceux qui veulent s'approcher, s'approchent. Il a donné une valeur, il a donné une réalité. Il a montré ce que c'était que la souffrance. Il a montré ce que c'était que la douleur, le renoncement à soi, et ainsi de suite. Ça nous apprend, nous aussi, chrétiens, qui peut-être parfois, je vais utiliser une image, pour un petit bobo, limite en tournant le dos à Dieu. Regardez, pourquoi tu m'as fait ça? Non, souvenons-nous de cette Pâque, de ce sacrifice de la Pâque. Jésus lui-même avait averti ses disciples avec des détails sur son sacrifice. Matthieu, chapitre 16, verset 21. « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup, d'abord pas physiquement, de la part des anciens, il a été trahi, de la part des principaux sacrificateurs, des scribes, les gens soi-disant intelligents. Donc déjà, on l'a critiqué, on a remis sa vocation en doute, on a remis son statut en doute, on l'a accusé de tout un tas de choses, comme si ce n'était pas vrai, que c'était un manipulateur. Puis après, on l'a abandonné dans les mains des bourreaux. Voilà le miracle de la Pâque. Et nous n'avons rien à lui apporter en sacrifice. J'ai pas de sacrifice à faire à Dieu. J'ai rien à lui apporter, à lui offrir que moi. Mais je dois me présenter à lui aussi sans levain, sans ce qui perturbe la pâte, sans ce qui fait que c'est pas pur et naturel. Bon, je sais, nous avons une pâtissière dans l'assemblée. Mais en fait, voilà, c'est pas la critique des bons gâteaux. C'est juste donner l'image qu'il n'y a rien besoin d'ajouter dans notre vie pour nous présenter à Dieu. Et surtout pas de nous présenter avec des péchés. C'est bon ? Il nous a sauvés pour ce que nous sommes, pour ce que nous étions, parce que notre vie a forcément été bouleversée lorsque Jésus est entré dans notre vie. Hein, Tan, le grand timide d'hier ? Je sais ce que c'est. Eh oui, Dieu est capable de transformer nos vies. Son sacrifice nous ouvre les portes de la réalité de l'existence de notre vie, de la simplicité de notre vie. C'est des choses simples. Mais aussi savoir l'accepter comme notre Sauveur et Seigneur pour le servir, pour le suivre et le servir. Alors, dans une semaine, effectivement, préparons la Pâque, nous nous rappelons aujourd'hui, mais continuez à nous rappeler, peut-être à relire, puisque maintenant vous avez un certain nombre de versets, de livres qui ont été cités, pour vous repencher, pour vous pencher à nouveau, peut-être d'une manière différente, sur, effectivement, je vais préparer la Pâque. Je vais essayer de la comprendre davantage, sa signification, ce que je veux en faire de cette Pâque. Je vais me l'approprier, cette Pâque, parce que Jésus, il est mort pour moi. Un Corinthiens, chapitre 5, versets 7 et 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. On parle de pâtisserie encore, désolé. Non, je ne suis pas désolé, c'est très bon. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, hein, des vieilles choses, des choses du passé, non avec un levain de malice et de méchanceté, Alors vous comprenez la signification du levain quand même ? Mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. La Pâque est accomplie avec le sacrifice de Jésus sur la croix. La nouvelle Pâque, si je puis dire. Mais l'histoire, aussi terrible soit-elle, elle ne s'est pas arrêtée là. Parce qu'il fallait une suite. Jésus est mort. Il a pris nos péchés et les a emmenés sur cette croix. Il nous a évité de monter sur la croix aussi. Il a pris notre place. Il a payé le prix. Il est descendu de cette croix. Et là, pour certains, c'était fini. Tout est accompli, signifié pour eux, tout est fini. Mais quand Jésus dit tout est accompli, c'est le commencement. C'est le commencement. C'est le commencement de ne plus avoir à faire de sacrifice, puisque c'est déjà fait. C'est le commencement de se dire, mais Christ est ressuscité. Il nous montre le chemin. La réalité, la vérité, c'est le commencement d'une nouvelle vie, d'une nouvelle espérance en Dieu. Contrairement à la première Pâque qui devait être renouvelée par des sacrifices, chaque année, le sacrifice de Jésus n'a été fait et il ne sera fait qu'une seule fois. Une seule fois. Jésus est mort, mais il est ressuscité. La Pâque est accomplie. Luc 24, « Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Ce n'est pas toujours évident de comprendre les Écritures. Et puis, tout ne nous est pas révélé. Le Seigneur a encore des choses à nous révéler dans sa parole. Et il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. On voit bien la réalité de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, et Jésus confirme dans sa parole, il dit, la repentance et le pardon des péchés sera prêchés en mon nom, à toutes les nations. Romains chapitre 1, verset 4, est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je terminerai. Alors, je ne veux pas trop développer parce que, comme la semaine prochaine, vous avez votre culte, peut-être des choses que vous allez réentendre, mais peut-être présenter d'une manière différente. Mais c'est ça qui est bien, qui est riche aussi, c'est de partager cette parole sous divers éclairages, divers façons de dire les choses aussi. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 20 à 23, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, et il est le prémisse de ceux qui sont morts. » C'est le premier. « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » On dit bien que Jésus était homme. d'où la souffrance de tout à l'heure. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Alors vous voyez, on est parti d'un sauvetage du peuple de Dieu en Égypte. Et là, on voit aussi que ceux qui ont accepté ont été sauvés, ceux qui n'ont pas accepté sont morts. Et puis année après année, ce rituel s'est perpétué jusqu'à ce que Dieu dise « Il va y avoir maintenant un seul sacrifice, une bonne fois pour toutes, si vous me permettez l'expression, et pour tout le monde en même temps. » Et c'est ça qui est magnifique. Et ce qui est magnifique, encore une fois, c'est que nous n'avons rien à... On n'a rien à lui apporter, on n'a rien à lui rembourser, on n'a rien à lui donner. Il a payé le prix. C'est comme si tu allais au supermarché, tu remplis ton caddie, tu passes à la caisse et on te dit « c'est payé ». Tu ne vas pas dire « je vais rembourser » puisque c'est payé. Vous voyez ? Si je te fais un cadeau, tu ne vas pas me dire combien je te dois. C'est un cadeau, je te fais un cadeau. Toi, tu dis « ben comment je peux te… enfin qu'est-ce que… » Non, c'est ça. Dieu ne demande rien. Juste « ben… » Crois en moi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.